Nous sommes face au château de Thy, imposante bâtisse dont les origines remontent au Moyen-Âge. Ce château subira de nombreuses transformations avant d'offrir son aspect actuel.
C'est un château de défense de plaine qui appartenait au duc, au comte de Namur, pardon, au comte de Namur, et qui avait été érigé par Henri l'Aveugle. Ça, c'est un point de départ au XIIe siècle. Château de défense, parce que c'était le bout du comté de Namur, pour se défendre un petit peu de ses cousins qui étaient comtes de Hainaut. Et donc, au départ, il a construit le donjon. Le donjon qui dominait un petit peu, il y avait une route, une chaussée romaine aussi qui passait juste au-dessus, qui était la chaussée romaine qui allait de Bavay à Trèves, dont on voit encore des restes dans le fond de Tilchâteau, dans l'ancien pont près du Moulin, c'était encore un pont romain, et puis on voit dans le prolongement l'ancienne chaussée romaine. Et donc ça, c'était vraiment la limite du comté de Namur. Alors, le comte de Namur, Henri l'Aveugle, n'avait pas d'enfant, et à la fin de sa vie, et donc finalement le Baudouin III, qui était son petit cousin, qui était comte de Hainaut, envisageait sérieusement de devenir comte de Hainaut, mais comte de Namur en même temps. Il avait déjà été nommé comte de Flandre, et puis donc lui, il avait des ambitions qui étaient assez grandes, et donc il se voyait très bien comte de Namur en même temps. Mais malheureusement, changement de programme, à la fin de sa vie, Henri l'Aveugle s'est marié, donc on est en 1180, 1200, quelque chose comme ça. Il s'est remarié et il y a une petite fille qui est née qui s'appelait Hermesinthe. Donc il a hérité par principe du comté de Namur, ce qui ne faisait pas l'affaire de Baudouin III contre de Hainaut. Et donc il y a eu une bataille, une vraie, que Baudouin III a gagnée. Et donc ils se sont arrangés pour qu'en fait finalement c'est Baudouin III qui régnait sur le comté de Namur. Mais le comte de Namur voulait garder la propriété des biens, donc ça n'a pas été très facile. Alors Baudouin III a eu un fils, Baudouin IV, qui devait partir aux croisades, puis finalement il a envoyé son demi-frère, qui s'appelait Guillaume de Saint-Sauve. Pour remercier Guillaume de Saint-Sauve d'avoir été aux croisades, il lui a légué la juridiction, donc sur Tilchâteau. Tilchâteau avait droit de haute justice, donc c'est-à-dire droit de vie et de mort, sur une dizaine de villages environnants. Donc c'était quand même une juridiction importante. Et c'est pour ça qu'au milieu du château, vous voyez le pilori. Hein, donc il rendait la sentence, et donc voilà. Et c'est Guillaume de Saint-Sauve qui a construit le corps principal de logement. Donc il y avait le donjon, et à côté, la partie gauche, c'est-à-dire le corps principal, le logis, a été construit par Guillaume de Saint-Sauve en 1350, au milieu du XIVe siècle. De fil en aiguille, donc la succession était difficile parce qu'il y avait eu une revendication du comte de Namur de récupérer les biens, le comte de Hainaut. Bon, donc résultat, comment ça va pas très bien. Donc ce château n'a jamais été habité. Les gens venaient là pour faire des fêtes, pour aller à la chasse, pour rendre la justice. Et ils venaient avec leurs affaires, donc il y a des coffres d'époque, donc ils emmenaient tout, leur vaisselle, leur drap de lit, tout pour faire un siège à Tilchâteau. Et donc la partie basse était réservée aux gardes, et ils habitaient la partie supérieure quand ils venaient dans cette pièce. Alors, de fil en aiguille, à la Révolution française, le château appartenait à la famille de Croÿ, et il a été incendié, le donjon a été mis par terre, a servi pour la construction de maisons dans le centre de Tilchâteau, et le cœur de bâtiment principal était transformé en brasserie. Bon, la brasserie a marché pas trop mal, donc résultat, ils ont agrandi avec des bâtiments annexes qui sont venus le long du château, donc dont on en voit des photos dans les livres. Et en 1922, la brasserie a eu des problèmes. La brasserie a fermé et il y a eu une vente publique à laquelle le grand-père, M. Louis Piret, a racheté le château. Et il a racheté pour en faire un local d'œuvre, pour essayer de remettre ça. C'était à la fin des années 20, au moment où il y avait quand même la crise économique. Comme il n'y avait pas le chômage pour les gens qui étaient ici à l'usine, donc ils étaient obligés de les garder, et donc finalement ça a permis de les occuper à reconstituer le château, sur base des gravures de la famille de Croÿ, où on montrait le château de Tilchâteau tel qu'il était à la Révolution française. Et donc ils ont reconstruit le donjon à l'identique. Ça, donc, c'est une reconstitution de l'entre-deux-guerres. Et également le portail d'entrée, les douves, enfin tout le chemin de ronde, tout ça c'est de la reconstitution. Ce qui reste initialement du château, c'est les corps de bâtiments fondamentalement qui ont été quand même un peu modifiés, mais qui étaient quand même d'origine. Et donc ça, tout ça, ces travaux se sont faits dans l'entre-deux-guerres. Pendant la guerre 40-45, l'église a été bombardée, donc l'église actuelle c'est une reconstitution. Antérieurement, il y avait une église gothique qui était une très belle église, qui a été bombardée par les Allemands pendant la guerre. Et donc, le château a servi d'église, a servi de cinéma, a servi de salle de théâtre, a servi de salle d'œuvre d'église jusqu'en 1956, date où la nouvelle église a été mise en fonctionnement, mise en route. Et alors, donc, actuellement, le château, ben, il est toujours dans la famille. Il n'est pas classé et il sert à faire des représentations théâtrales, des mariages, des expositions, un petit peu tout. Pour l'instant, il y a un tournage de film qui est en route pour la semaine prochaine, pour une histoire de conte pour des enfants. Et donc, voilà un petit peu l'activité du château actuellement.
Le château, les usines, la ferme du château ont été marqués par la famille Piret. D'où un rapport particulier entre la population de Ty et cette famille.
Voilà, c'était surtout une famille très, très populaire. Ils étaient du village, ils participaient à tout, par exemple à Saint-Éloi, ils venaient boire un coup avec nous. Ils étaient très, très estimés. Bon, estimés du fond du cœur, hein, parce qu'il y a l'estime qu'on porte à quelqu'un parce qu'on a un intérêt à ce qu'on soit ainsi, mais il y a aussi l'estime profonde du cœur, tout le monde les respectait.
À côté du passé industriel et du patrimoine bâti qui marque le village, la place où nous sommes est le théâtre de festivités folkloriques typiques en Entre-Sambre-et-Meuse. Le premier dimanche de juillet, des centaines d'hommes escortent, en costume militaire, la chasse Saint-Pierre à l'occasion de la marche Saint-Pierre et Paul. Au son des fifres et des tambours, les sapeurs, les grenadiers, les voltigeurs déambuleront dans les rues du village, exécutant des décharges de poudre pour rendre les honneurs au saint patron ou aux notables.
Il faut bien se dire qu'au départ, l'origine de nos marches, ce sont l'escorte de trésors religieux. Dans le sens que, au départ, les chasses et les trésors religieux d'orfèvrerie, quand ils passaient de village en village ou de principauté en principauté, dans les années 1300, voire 1400, eh bien, ils étaient escortés par des arbalétriers, c'est tout à fait à l'origine, on en a encore des documents concernant ça. Et les différents fiefs, justement, escortaient cette salle d'abbaye en abbaye ou de château en château. Et par la suite, donc justement, comme je disais, avec le flux et le reflux des différentes armées qui ont traversé la Belgique, eh bien, les gens ont récupéré, donc, avant bien sûr la première guerre, eh bien, ont récupéré ce qu'ils avaient, ce qu'ils trouvaient sur leur chemin. Donc, ça veut dire, sur place, on peut retrouver dans notre costume Deuxième Empire, qu'on appelle ainsi, eh bien, on peut retrouver une fraque, ça veut dire, donc, ça, la veste de gendarme hollandais. L'emblème vraiment du marcheur folklorique, c'est le grenadier Deuxième Empire, qui est vraiment la figure emblématique, disons, du marcheur. Bien sûr, un tambour majeur est joli, un zouave est joli, un grenadier Premier Empire avec son tablier, sa hache, ou bien le sapeur Premier Empire, ben c'est magnifique, c'est... c'est des costumes rutilants, des costumes boa, mais la figure emblématique, on retrouve toujours dans nos mémoires la tête du grenadier du Deuxième Empire qui, bien sûr, dans nos régions, qui sont des régions ouvrières, eh bien, on se fait un honneur, comme quand dans le centre, du côté de Binche, on fait le Gilles, hein, on ne fait pas les Gilles, on fait le Gilles, eh bien, ici, le marcheur, d'année en année, de tradition de père en fils, souvent, eh bien, dès que le son du tambour résonne le dimanche matin, à 4h au matin, eh bien, on enfile sa frac et on marche. On se retrouve ici, à Tilchâteau, pour un week-end de marche. On a conservé un caractère de marche Deuxième Empire. Bon, quand les gens entendent ça, marche Premier Empire, marche Deuxième Empire, ça veut dire quoi? Je vais vous avouer qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de marcheurs qui marchent depuis 25 ans, qui ne pourraient pas vous dire la différence. Bon, je pense qu'on peut retenir deux choses. Pour savoir où on se situe, quand un touriste vient dans une marche, fait une immersion ici dans la région, eh bien, il doit regarder non pas la tête des gens, ni ce qu'ils portent sur leur tête, mais il doit regarder leurs pieds. Pourquoi ? Parce que aux pieds, on porte des chaussures, bien sûr. De préférence, quand elles sont noires, ça fait plus beau, comme on dit, ça fait plus correct, au lieu d'avoir des baskets, parce que malgré tout, dans certaines marches, on retrouve des gens avec des baskets. Ça, c'est l'horreur, comme vous diront les anciens. Mais on regarde ce qu'ils ont aux pieds, dans le sens que s'ils portent des guêtres noires, par exemple, qui sont à la hauteur des mollets, eh bien, d'office, c'est du Premier Empire, dans le sens que ce sont des costumes napoléoniens, et à ce moment-là, c'est caractérisé par les guêtres noires. Thomas Major, c'est quoi? C'est d'abord un enfant qui, dès l'âge de quelques mois, avait un voisin qui s'appelait Louis Delbar, qui est le maître de musique, comme Van Damme aurait pu être dans ce domaine. Louis Delbar était le maître de musique dans le sens que c'est lui qui a formé tous les meilleurs tambours qui accompagnent la marche folklorique de l'Entre-Temps Brémeuse actuellement. Il habitait Prix-les-Walcourt, le village où je suis né, parce que je suis né à Prix, et puis après, à l'âge de 5-6 mois, je suis venu ici à Tilchâteau, pendant que mes parents restaurer une maison ici pour habiter. Donc, tout le monde dans la région sait que lorsqu'il y a un maître tambour qui apprend à tambourer à des élèves, dans le coron, comme on dit, il y a des bruits de tambour qui résonnent et les maquets vont montrer. Les maquets, ce sont les baguettes de tambour major, les baguettes de tambour. Et Ce qui est caractéristique ici dans la région de nos marches, c'est que à chaque date, à chaque jour de marche, dès 4 heures au matin, on est réveillé par le bruit des tambours. Donc tout petit, j'étais vraiment tombé dedans, comme on dit, et j'ai appris à jouer du tambour avec ces différentes personnes. Et ensuite, j'ai pris un fifre en bouche aussi, j'ai commencé à jouer du fifre. Ici à Tilchâteau, par exemple, la relève a été créée par Jean Derzel, l'instituteur du village. Et je me souviens, j'en ai fait partie avec l'aide d'un tourne-disque et certaines années de tambour, quand les tambours, parce qu'on a dit, tiens, pourquoi prendre un tourne-disque alors que nous avons des bons tambours. Eh bien, les tambours résonnaient dans la cour de l'école, et le mercredi après-midi, au lieu d'aller jouer au ballon, ben, on répétait pour la marche, et je crois que c'est ça qui a donné un petit peu l'élan. C'est un fifre qui joue les lèvres pincées avec l'instrument parallèle horizontal et qui se joue à la même manière qu'une flûte traversière, quoi. Voilà, et ça aussi, ça s'apprend. Il y a aussi des maîtres de musique dans le fifre et des maîtres de musique dans le tambour. Et maintenant, l'association des marches folkloriques de l'Entre-Temps Brémeuse donc si tu as Gerpine, le siège institutaire Gerpine, chaque année, il y a un concours, il y a un concours d'acceptation de qualité de tambour. Ça veut dire que les petits jeunes tambouris, comme on dit, on n'appelle pas ça un tamboureur, on appelle ça un tambouri, eh bien, se rend dans une salle, et avec l'aide d'un jury composé d'anciens tambours, tout ça, hein, qui peuvent juger la qualité, disons, des coups, hein, parce qu'on joue des rats, des flats, des flabadas, c'est toute une technique. C'est comme les costumes, si vous avez des costumes Premier Empire ou costumes Deuxième Empire, eh bien, vous avez aussi des musiques Premier et Deuxième Empire. Ça veut dire que nous avons des musiques traditionnelles qui ont été créées par des gens comme Louis Delbar et autres. Nous retrouvons vraiment l'explication de ce que je vous ai expliqué concernant le costume. Et nous avons des marches, qu'on appelle les françaises, que les gens vont connaître s'ils les entendent, les vignes auprès de ma blonde, par exemple, c'est des airs connus qui sont très agréables à entendre, mais que les gens connaissent davantage. Et alors nous avons ce qu'on appelle, par exemple, les hollandaises. C'est tout un groupe, c'est trois marches qui suivent, qui s'enchaînent. Et quand le tambour major tourne avec son bâton, ben on passe sur la deuxième reprise et on est parti donc dans cette série-là. Et alors nous avons des marches vraiment typiques de la région ici, et qui ont été reprises dans toutes les régions, aussi bien Soigny qu'à Tarsienne qu'à Fos. Il y a par exemple une marche qui s'appelle Le Réveil, qui joue le matin, qui est reconnaissable et qui ne change pas, qui est reprise par toutes les marches, même Première et Deuxième Empire. Nous avons l'appel des officiers ensuite qui vient. Nous avons Au Drapeau, et chaque fois ça donne lieu à des partitions musicales, on ne joue pas ça n'importe comment. Beaucoup vous diront, ah, oh, la marche est finie, c'est plus ce que c'était. Bon, ben, le beurre aussi, il n'est plus le même qu'on a fait il y a 50 ans. Maintenant, les vaches donnent toujours du lait, donc il ne faut pas changer la structure de ce qu'on a. Mais les gens ne sont jamais contents. D'un autre côté, je crois que c'est l'ambiance qui change. Parce que les gens ont beau changer de costume, ils ont beau changer de fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, il y a beaucoup, disons, de mentalité qui change.
Nous voici presque arrivés au terme de notre balade. Si le temps et l'envie vous en dit, nous vous proposons une dernière étape pour compléter l'histoire du chemin de fer en entre-Sambre et Meuse. Cette étape durera 40 minutes et vous guidera le long de l'ancienne voie ferrée. Si vous souhaitez arrêter le parcours à ce niveau, passez directement à la dernière piste, la piste 14. Dans le cas contraire, laissez-vous guider par la bande-son.